Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Renaissance avec un S ou sans S, avec évidemment notre invité Philippe Frétinier qui a déjà largement commencé à nous parler de ces questions de Renaissance dans la suite des questions liées au baroque tout en remettant en cause évidemment ces notions. On en a beaucoup parlé lors de la dernière émission où vous nous avez refait un peu un bout d'historiographie, nous disant à la fois que l'art était pluriel et ne procédait pas par évidemment découpe chronologique aussi claire, mais surtout vous nous avez aussi dit que l'art n'était pas du tout indépendant de la société dans laquelle il est produit, bien évidemment. Alors aujourd'hui, puisque vous nous avez beaucoup parlé d'un des artistes majeurs de la Renaissance, Van Eyck, vous vouliez apporter une autre perspective qui était celle d'un autre grand artiste pour la peinture de l'époque, du XVe siècle, Masaccio.
Oui, parce qu'on peut dire que si on devait suivre l'idée d'un artiste qui constitue un réel tournant, c'est-à-dire quelque chose de vraiment différent, presque radicalement différent de ce qui s'est fait dans son domaine avant lui, à ce moment-là, il faut parler de Masaccio. C'est le contemporain de Van Eyck, quasiment.
Vous voulez dire, en quelque sorte, juste pour resituer les choses, que Van Eyck est plutôt un continuateur de ce qui s'est passé auparavant, là où Masaccio, lui, est par contre quelqu'un qui occuperait une position plus de rupture par rapport à ce qui précède.
Vous savez, par exemple, pour la musique, j'ai déjà dit, peut-être dans un autre cadre, mais que par exemple, on pourrait, en schématisant, dire que Bach clôt une période, et puis Mozart, un peu lancé par Haydn, hein, quand même, mais il en ouvre une autre. Bon, alors on ne peut pas vraiment dire que Van Eyck clôt une période, parce que d'abord, il y a une descendance, et puis lui-même est quand même quelque part un tournant dans son travail sur la lumière, dont j'ai parlé, je crois, ici assez longuement. Mais on ne peut pas déduire de ce qui se passe avec Van Eyck, tout aussi extraordinaire, génial, dans une acception non dévoyée du terme, on ne peut pas voir où on va. Alors que Masaccio, on voit qu'on s'en va vers la peinture des temps modernes. Alors pour que nos auditeurs se fassent une première idée, une représentation de Masaccio. Bon, évidemment, il y a Internet qui permet, même pour ceux qui n'ont pas fait le voyage d'Italie, de voir des images. Masaccio, c'est le peintre des fresques de la Cappella Brancacci à Florence. Et il est tellement important que ça soit Vinci, Michel-Ange, même Raphaël d'ailleurs aussi, ils vont tous les trois le revendiquer comme un maître. Donc, c'est les trois titans de la Renaissance mentionnaient leur descendance par rapport à Masaccio.
Oui, il ouvre des voies pour ces trois géants. Quoi.
Voilà. Et c'est vrai que la peinture, les fresques de la Cappella Brancacci, vous savez, j'ai déjà mentionné que finalement, il y avait avec Pétrarque et Boès, un peu deux directions différentes, l'un prônant le retour à l'antique, Pétrarque, et puis Boès prônant le retour à la nature. Et en fait, d'ailleurs, on voit que, en tout cas dans la Renaissance italienne, dans les prémices de la Renaissance italienne, que finalement, ce n'est pas deux courants différents qui vont s'opposer, mais qui vont au contraire s'alimenter l'un l'autre. Hein. Et chez Masaccio, on voit très bien dans les fresques, c'est une toute autre peinture que celle de Van Eyck. Van Eyck, c'est une sorte de réalisme photographique, quoique il faudra encore mettre cette expression-là en cause, parce que quand on fait de la photo, ce qui est mon cas, On sait bien que suivant l'exposition, l'ouverture, l'objectif, on a un résultat absolument différent de la même chose au même moment avec la même lumière. Donc, mais il y a quand même une volonté de décrire avec une grande précision la nature, finalement. Bon, on en a parlé, hein, si vous regardez les perles, les bijoux peints par Van Eyck avec le jeu de la lumière sur la perle, ça va d'ailleurs perdurer jusqu'à Vermeer, hein, dans la peinture flamande et hollandaise. C'est aussi la continuité de cette idée de décrire le monde qui, au fond, commence avec Aristote, hein, avec tous ses livres sur la nature, même si l'approche est largement erronée chez Aristote. Et au fond, avec l'apparition de la culture, c'est quasiment un fait anthropologique que les humains essayent de classer, d'organiser le savoir et à travers le savoir, le monde qui l'entoure. Alors, chez Van Eyck, ça avait donc donné cette description très, qu'on pourrait dire minutieuse, mais ça serait lui faire injure de s'en tenir à ce simple mot. Mais c'est vrai qu'il y a une science du détail, de la lumière extraordinaire. Chez Masaccio, c'est tout à fait autre chose. C'est justement vraiment le retour à la nature. Et par exemple, Adam et Ève, qui sont dans cette fresque de la Cappella Brancacci, sont peints avec une assez grande liberté pour l'époque. Ça, c'est vraiment le fait nouveau. C'est pour ça que Masaccio constitue vraiment un tournant dans l'histoire de la peinture italienne. Les deux, donc, sont quasiment contemporains. Je crois avoir indiqué, par ailleurs, que l'influence de la peinture flamande est vraiment très importante dans l'histoire de la peinture italienne, bien que celle-ci fût déjà riche de développement à partir de... même avant Giotto, Cimabue... au-delà du fait que les Flamands vont... développer l'art de la peinture à l'huile, ce qui leur est propre, ce qui est vraiment nouveau et qui va être repris par les Italiens puisque les œuvres flamandes vont circuler par l'intermédiaire de riches familles en Italie. Il y a donc cette influence d'une nouvelle technique, d'une nouvelle forme de regard sur la nature de la part de Van Eyck, dans la précision, l'acuité du regard. Et en même temps, il y a cette naissance avec Masaccio d'une grande liberté dans le rendu de la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche construite comme celle de Van Eyck. Hein. C'est plutôt le sentiment que la nature évoque chez Masaccio. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, toujours dans ce mouvement... Aujourd'hui, on dirait dialogue, moi c'est un mot qui m'agace un peu, mais dans ce va-et-vient entre le retour à l'antique avec des règles très, très précises, hein. Par exemple pour l'architecture, il y a les livres de Vitruve et la question des ordres en architecture. La langue, il y a aussi la structuration de l'art oratoire et aussi de ce qui est écrit. Le meilleur exemple, c'est Cicéron. Donc ça détermine des règles rhétoriques pour longtemps. Cela n'empêche absolument pas cette liberté qui va arriver dans la peinture italienne avec Masaccio, qui va composer avec, mais qu'on va ressentir aussi dans l'architecture. Il y a deux figures majeures dont il faut parler. C'est Brunelleschi à Florence et Bramante à Rome. Alors, tous les deux repartent des canons classiques, hein, la question des ordres et des livres de Vitruve. La différence, c'est que Brunelleschi, pour des raisons bien précises, l'œuvre majeure qui l'a fait connaître, c'est le dôme, comme on dit en Italie, à Florence. On a construit une cathédrale aux dimensions très ambitieuses, et à la croisée des transepts, on a un gigantesque espace à couvrir. Et d'ailleurs, ça va mettre le chantier en panne. On va faire un concours. Alors, après que Brunelleschi ait été un concurrent malheureux pour les portes du baptistère de la cathédrale, il concourt pour donc la construction de la couverture de cet espace. Et il propose ce fameux dôme dont, par ailleurs, encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment bien expliquer comment ça s'est passé, puisque c'est une surface gigantesque. Et il a conçu son projet sans échafaudage.
Donc, et pourtant, c'est cette structure architecturale, en tout cas en Italie, mais pas seulement, a ensuite connu un destin formidable, puisqu'il y en a des Duomo en Italie, il y en a beaucoup, et puis les églises orthodoxes plus à l'Orient aussi. Enfin.
Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien, que ce soit chez Brunelleschi, mais aussi chez Bramante, dont je vais parler ensuite, cette capacité à adopter des règles qui viennent de l'Antiquité tout en inventant par ailleurs. C'est-à-dire que les règles ne sont pas vécues comme une contrainte limitative, mais bien au contraire, servent de tremplin à l'invention. Hein. D'ailleurs, bon, comme le disait le poète, de la contrainte naît l'art. Hein. On a une époque où on croit pouvoir apprendre les mathématiques en éclatant de rire. On fait une rétrospective en peinture quand on a 30 ans. Enfin bon, on pense qu'on peut se dispenser des règles. Et en fait, on se dispense de l'essentiel qui est le support de la créativité, justement. Et ça, la Renaissance italienne le montre très, très bien. Hein. Et donc ce fameux dôme, on sait à peu près, parce que bon, on l'a sous les yeux, il a été étudié par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'architectes, il continue à l'être, il y a même eu des maquettes assez grandes de faites avec les mêmes matériaux pour voir comment il a pu assembler ce dôme sans échafaudage, c'est une structure autoportante, construite en arête de poisson. Mais dans le détail, on ne sait pas très bien comment il s'y est pris parce qu'il a laissé, il n'a absolument laissé, rien laissé derrière lui. Donc on ne sait pas. Et puis l'autre exemple, donc c'est Bramante avec deux édifices. Un édifice qui n'est pas très grand, qui s'appelle San Pietro in Monteriolo, qu'on appelle le Tempietto, alors qui reprend, c'est un temple de forme circulaire, un petit temple, où il utilise donc les ordres de l'Antique dans une référence tout à fait explicite. Et c'est lui qui va initier finalement le premier projet de Saint-Pierre de Rome, qu'on ne peut pas voir de la place, parce que d'abord il y a la façade du Bernin qui a été construite devant, et puis le dôme de Saint-Pierre, on l'attribue à Michel-Ange, en tout cas le dessin, ça c'est sûrement. Mais l'église Saint-Pierre de Rome, enfin la basilique Saint-Pierre de Rome, pardon, n'a pas été conçue comme elle nous apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, elle nous apparaît comme une église en forme de, avec un plan en forme de croix latine, c'est-à-dire une nef assez longue et des transepts moins longs. Et au départ, pas du tout, c'était, comme d'ailleurs beaucoup d'édifices de la Renaissance, en ce qui concerne les églises, on partait d'un plan carré, c'est-à-dire donc finalement une croix grecque. Hein. Et donc, du côté de la place, on ne peut pas vraiment voir comment Bramante a construit, avec l'usage des ordres, un nouveau vocabulaire, tout en adoptant des règles anciennes. Et quand on a la chance, ce qui a été mon cas, de pouvoir aller dans les jardins du Vatican, on voit de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le chevet, et on voit cette architecture de Bramante absolument magnifique qui cite abondamment l'architecture classique, donc celle de l'Antiquité, puisqu'à ce moment-là, le mot classique renvoie à l'Antiquité.
Donc ce que vous nous dites, Philippe Frétinier, c'est que ces créateurs, à la fois, procèdent à une rupture, hein, Masaccio pour la peinture, Brunelleschi, Bramante, vous nous l'avez dit, pour l'architecture, en suivant à la fois des règles édictées pour la création, mais aussi des règles techniques concrètes, parce qu'on ne fait pas tenir un bâtiment n'importe comment. Donc on va revenir là-dessus après une petite pause musicale, puisque nous parlons d'Italie, vous allez nous faire écouter de la musique espagnole, je crois.
On va écouter une pièce d'orgue d'Antonio de Cabezón, qui est un musicien espagnol de la Renaissance. Et donc on va entendre à la fois cette musique espagnole qui est très très méconnue en France, malheureusement, qui recèle des trésors extraordinaires et d'envergure, tant par la qualité que par la quantité. Et puis en plus, cette pièce d'orgue est jouée sur un orgue espagnol qui a un timbre bien particulier aussi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Renaissance avec Philippe Frétigny. Alors Philippe, vous nous disiez juste avant cette pause musicale à quel point les créateurs, notamment donc en architecture Brunelleschi et Bramante, avaient à la fois suivi les règles, à la fois repris, fait leur propre retour à l'antique et en même temps innové complètement. À la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan artistique.
Et d'ailleurs, ça ne se limite pas qu'à la Renaissance, mais on peut constater, à partir du XIIe siècle, et c'est un mouvement continu, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'abord, il n'arrive pas là sui generis, hein, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à travers l'Europe, ça circule, c'est repris, dans un premier temps sous forme d'imitation, hein, et puis finalement, ça sert de support, ça nourrit l'imaginaire, et ça sert de support pour donner de nouvelles impulsions. Et d'ailleurs, il y a un contemporain de Brunelleschi qui s'appelle Filarete, qui a laissé des écrits, qui était lui-même praticien de l'architecture et qui était un partisan enthousiaste de l'art gothique, hein, même si, encore une fois, en Italie, dans l'architecture civile, on peut en discuter, mais dans l'architecture religieuse, le gothique n'a pas connu une si grande fortune que ça, hein. les principales cathédrales gothiques
sont dans le nord.
Oui, puis on en a vite fait le tour, finalement, pour citer les édifices d'importance, il y a Milan, Orvieto et Sienne. Et puis après, c'est à la marge. N'empêche que Philarète, lui, il s'enthousiasme pour le gothique. Et puis, bien sûr, il découvre, il entend parler de Brunelleschi à Florence. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il entend dire qu'à Florence, on se met à construire à la manière classique. Donc, il est curieux, il va à Florence, il découvre Brunelleschi. Et là, il tourne le dos à ses sentiments envers le gothique pour se tourner vers cette nouvelle forme d'architecture qui l'enthousiasme et qu'il va reprendre à son compte. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'en plus, finalement, ce mouvement de va-et-vient entre l'inspiration classique avec des règles, notamment celle de Vitruve pour l'architecture, mais aussi pour la culture en général, et puis la créativité contemporaine est très importante, parce que par exemple à Florence, où il se passe donc ce mouvement dans l'architecture, un tout petit peu après, on a aussi, par exemple en philosophie, on a vraiment une école intellectuelle très importante, hein, grâce aux Médicis, et il y a un certain Marcille Ficin qui va être un philosophe néo-platonicien, c'est-à-dire qu'on va se raccrocher là aussi à l'Antiquité, mais c'est surtout l'héritage platonicien. Hein, on peut vraiment dire que Marcille Ficin était un néo-platonicien. Il y a d'ailleurs, dans les rapports que ça peut avoir avec l'art, il y a un excellent ouvrage de ce grand homme, qui était grand historien de l'art, qui était André Chastel. Il a fait un livre sur Marcille Ficin que je recommande. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais on retrouve ça dans la philosophie, dans les lettres. Et quand il s'agit de Bramante à Rome, on peut dire la même chose, parce que quand j'évoquais tout à l'heure la basilique Saint-Pierre, on voit bien que ça n'est pas un temple grec ou un théâtre romain. Hein, c'est quelque chose de particulier, qui est nouveau, même si les éléments du vocabulaire viennent de plus loin.
Oui, mais c'est une recomposition complète, grâce à ce vocabulaire, de l'œuvre globale, au fond, au sens où, par exemple, on peut dire, par exemple, dans les lettres, que beaucoup de scénarios ont déjà été écrits, réécrits, réécrits, et néanmoins, à chaque fois qu'on les écrit, c'est quelque chose de nouveau qui se produit.
Oui,
de toute façon.
Dans la musique, ça va même donner un genre, par exemple, les folies. J'ai vérifié, y compris à l'ère moderne, je crois que dans les folies françaises, il y en a 150 compositeurs différents. Hein. Et d'ailleurs, ça traverse les cultures. Ça aussi, on pourrait dire que c'est un fait au moins culturel et peut-être même anthropologique, parce que cette idée d'un thème qui sert de point de départ pour une création qui renouvelle le genre, c'est exactement l'histoire des thèmes dans le jazz qui sont repris et qui sont aussi des formes de variation finalement.
Hein. Là, vous nous faites faire un bond dans le temps.
Oui, mais c'est pour dire que ça me plaît bien de le faire, parce que ça montre que ces phénomènes ne sont pas isolés dans le temps, dans la culture de l'homme, dans l'histoire de la culture, et qu'au fond, ce sont justement des faits quasiment naturels, le mot est peut-être pas juste, mais inhérents au processus de la créativité jusqu'à notre triste époque moderne.
Alors, Philippe Frétinier, peut-être quand même pour revenir à la Renaissance, vous nous avez parlé de trois grands artistes. Est-ce que ces trois grands artistes, ces trois grands créateurs, donc Masaccio, Brunelleschi et Bramante, est-ce qu'on peut considérer vraiment qu'ils sont d'une Renaissance, ou est-ce qu'ils sont précurseurs de la Renaissance? Juste peut-être pour conclure sur cette idée.
Alors,
ils sont un peu entre deux mondes, hein, le monde du Moyen-Âge,
oui,
le monde de la Renaissance.
Alors, on peut dire quand même, par exemple, il faut prendre cas par cas, hein. On peut dire que à cette époque-là, à ce moment-là de la Renaissance, Masaccio, en peinture, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre des perspectives. Hein. C'est d'ailleurs, ça n'échappe pas aux trois grands que j'ai cités tout à l'heure. Hein. Et d'une certaine façon, c'est un tournant, c'est en tout cas une bifurcation hein, par rapport à ce qui s'est fait avant. Encore une fois, je reviens à Van Eyck. Van Eyck n'est pas une bifurcation de ce qui s'est fait avant. C'est un perfectionnement de ce qui s'est fait avant lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Brunelleschi, grâce à son invention technique du dôme de Florence, ça ouvre des perspectives nouvelles, c'est-à-dire d'abord l'importance de la réflexion sur la technique et sur la construction et sur les moyens d'y parvenir.
Ce que vous appelez parfois le métier.
Oui, voilà. C'est ça. Et donc, forcément, que ça change aussi l'histoire de l'architecture, c'est quelque chose d'assez radical par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à ce moment-là. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué dans le cas de Bramante, parce que techniquement, ça n'est peut-être pas aussi innovant que Brunelleschi, mais dans l'exploration et la réappropriation du patrimoine antique, c'est quand même aussi une nouvelle perspective, c'est un tournant.
Merci beaucoup Philippe Frétinier pour toutes ces précisions encore aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, nous continuerons à aborder peut-être une autre période de la Renaissance, un petit peu après, où on commence à voir les prémices de ce que tout le monde connaît bien, les géants de la Renaissance. Merci encore et à très bientôt.